3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à vous tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Programme Double, un podcast de moins d'une heure diffusé une fois aux deux semaines qui vous présente deux longs-métrages ayant en commun une même thématique, un même acteur, un même réalisateur ou qui font partie d'une même franchise. Le but du podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés tout en vous racontant certaines anecdotes de la production. Le tout enrobé d'une sauce très rétro. Noël, cette célèbre fête qui revient à chaque fin d'année avec son lot de cadeaux et ses sapins décorés et qui est vécue par des familles plus ou moins unies avec des enfants turbulents ou des fils et filles venant parfois présenter leurs petits amis à leurs parents. Alors que cette fête demeure une tradition importante pour la majorité des habitants du monde entier, qui s'y prépare en y mettant du cœur et du stress, tout en racontant les contes de Noël les plus célèbres de Charles Dickens, mettant en scène Mr. Scrooge, il existe tout de même ce petit groupe de personnes qui ne sont pas très festifs durant cette période, haute en émotions de toutes sortes, et qui désirent se mettre sous les yeux un spectacle beaucoup plus spectaculaire qu'un groupe de Gaulois qui passent des baffes à leurs voisins romains ou encore des aventures d'une jeune fille qui recueille chez elle un des rênes du Père Noël. Alors que le réveillon de Noël est associé avec comédie, humour, amour et drame, je m'amuse ici à vous présenter une émission où les festivités font place à des fusillades se déroulant dans un lot d'arbres de Noël ou encore dans un aéroport se trouvant au centre d'un important blizzard où une bande de terroristes mettent la vie des passagers de plusieurs avions de ligne en danger en prenant le contrôle de la circulation aérienne du secteur le soir de Noël. Plus capable d'entendre les pubs de ciné-cadeaux, tanné d'avoir à écouter des films de Noël traditionnels tels que National Lampoon's Christmas Vacation, exaspéré d'avoir à se taper une série de rom-com à la Love Actually, eh bien voici un programme double fait de films pour vous qui se déroule dans le temps des fêtes, mais qui ne comporte pas de lutin, de Père Noël ou de scènes familiales larmoyantes. Donc, place ici aux cascades, aux explosions et aux répliques savoureuses en grande compagnie avec des héros tels que Martin Riggs et John McClane qui vous feront apprécier, en cette veille de Noël, d'être de nouveau au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des films tels que Lethal Weapon, réalisé en 1986 par le metteur en scène Richard Donner, et Die Hard 2, Die Harder, cette suite au succès de 1988 qui est ici réalisé par le réalisateur finlandais Reni Harlin.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
The management and staff of this theater wish every one of you a very, very happy Christmas. To a gay, exciting new year.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
It's refreshment time, folks. Time out for a delicious snack in our sparkling refreshment building. Every item a fresh, appetizing taste treat. Fresh popcorn, delicious and crisp, with or without butter. Sizzling hot dogs, bursting with juicy goodness. Tender, tasty hamburgers with all the trimmings. French fries, crisp and golden brown.
There's plenty of time to treat yourself to something good to eat at our refreshment center.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Voici le cauchemar des criminels, un flic qui aime le danger.
Ni coup de feu, ni jugé dessus, tu le fais juste descendre.
Mais alors quoi, tu veux sauter ou pas? Bon, on va sauter ensemble, mon vieux. Allez, viens, mais ça m'intéresse, j'ai jamais fait.
Il allait prendre sa retraite. Maintenant, il la regrette du fond du cœur.
Un flingue!
Roger, tu travailleras avec lui.
Avec lui? Oh, j'ai passé l'âge de ces plaisanteries.
Que ces deux-là arrivent seulement à se supporter.
Qu'est-ce que tu portes comme arme?
Un Smith & Wesson.
Ça, c'est la marque préférée des papilles.
Et ça va dégager chez les criminels.
Je ne veux pas de mort.
Il n'y aura pas de mort.
J'ai passé l'âge, je vous dis.
Est-ce que t'es aussi doué que tu le prétends?
On ne peut rien contre moi. En fait, dans notre arsenal, tu es notre arme fatale.
Arrivé donc auprès des gens que tu n'es pas tué.
Ben, je t'ai pas encore tué, toi.
Lethal Weapon, ou l'arme fatale, est un drame policier produit par les studios Warner Brothers et qui est sorti en salle le 6 mars 1987. Ce film américain d'une durée de 110 minutes a coûté plus de 15 millions de dollars à produire, mais a ramassé plus de 120,2 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène Richard Donner, celui qui nous a donné des films tels que Superman, Maverick, Radio Flyers et Assassins. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain Joel Silver, lui qui a travaillé sur des films tels que Commando, Predator, Roadhouse et The Matrix, ainsi que Richard Donner, ce producteur américain, qui lui a travaillé sur la production de The Goonies, Lady Hawk et Scrooged. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Shane Black, qui lui a écrit les scénarios de The Last Boy Scout, The Long Kiss Goodnight et Iron Man 3. À la distribution, on y retrouve Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love, Jackie Swanson et Tracy Wolfe. Devenu suicidaire suite à la mort de sa femme dans un accident de voiture, un policier de Los Angeles, fort d'une folle témérité dans son travail, tombe en équipe avec un nouveau partenaire, père de famille et sur le bord de la retraite. Les deux hommes sont alors appelés à enquêter sur l'apparent suicide d'une jeune femme, mais il apparaît que cette mort provoquée
était un moyen de pression contre son père, complice de gros trafiquants de drogue. Fraîchement diplômé du UCLA, le scénariste-réalisateur Shane Black, alors âgé de 22 ans, commence à écrire le scénario de Lethal Weapon dès 1985 avec l'intention de créer un western urbain dans la veine du drame policier de 1971, Dirty Harry. Son premier jet, de plus de 140 pages, sera alors beaucoup plus sombre et violent que le résultat final. Après avoir jeté l'œuvre littéraire au vidange, Black le reprendra et retravaillera celui-ci. Une fois l'écriture terminée, l'agent de Black proposera alors le scénario à plusieurs studios. Malheureusement, tous allaient refuser avant que le vice-président exécutif de la Warner Brothers, Mark Canton, ne soit séduit. Après avoir acheté le scénario au coût de 250 000 $ Canton fait ensuite appel au producteur Joel Silver et les deux hommes travailleront alors avec Shane Black pour développer l'histoire. Par la suite, Silver se penchera sur l'embauche d'un réalisateur pour le projet. Contactant le metteur en scène britannique Ridley Scott, ce dernier refusera le poste, étant encore échaudé par son expérience avec les hauts dirigeants de la Warner Brothers sur le film Blade Runner. Silver se retournera alors par la suite vers l'acteur-réalisateur Leonard Nimoy, qui, lui, ne se sentait pas prêt pour faire un film d'action et qui préféra alors mettre en scène la comédie Three Men and a Baby, film qui terminera en tête du box-office nord-américain en 1987, loin devant Lethal Weapon, qui, lui, terminera à la 8e place. C'est alors que Silver se tournera vers le metteur en scène américain Richard Donner. Ce dernier, fort de succès tels que The Omen en 1976, Superman en 1978 et The Goonies en 1985. Après son embauche, Donner se tournera alors vers le scénariste Jeffrey Baum, avec qui il avait déjà travaillé sur la production de The Lost Boys, pour effectuer des réécritures afin de rendre le film beaucoup moins sombre. Ce sera la directrice de la distribution Marion Dougherty qui suggérera de mettre en équipe les acteurs Mel Gibson et Danny Glover sur le grand écran. Avant que Gibson ne soit choisi, plusieurs autres acteurs furent envisagés, tels que Alec Baldwin, Michael Biehn, Jeff Bridges, Robert De Niro, Kevin Costner, Willem Dafoe, Michael Douglas, Harrison Ford, Christophe Lambert, Stephen Lang, Al Pacino, Sean Penn, William Peterson, Dennis Quaid, Christopher Reeve, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, Tim Selleck et plusieurs autres. Bruce Willis se verra même offrir le rôle, mais le refusera. Ce qui amènera alors à l'embauche de Gibson, qui refusera alors les rôles principaux dans les films The Fly en 1986 et The Untouchable en 1987 pour prendre ici celui de Martin Riggs. Fait cocasse, Gibson fut à un moment envisagé pour le rôle de John McClane dans la série Die Hard, mais lorsqu'il refusa le poste, ce dernier ira à l'acteur Bruce Willis. Quant au scénariste Shane Black, ce dernier voyait William Hurt dans le rôle de Riggs. Pour le rôle de Roger Murtaugh, le premier choix fut l'acteur Brian Dennehy. Mais finalement, Marion Dougherty réussira à convaincre Donner de prendre l'acteur afro-américain Danny Glover après avoir vu la prestation exceptionnelle de ce dernier dans le film de 1985 de Steven Spielberg, The Color Purple. Lorsque Gibson et Glover se rencontreront pour la première fois lors de la lecture du scénario, Richard Donner était non seulement convaincu, mais ce dernier tombera alors en amour avec la magie qui se développera entre les deux hommes. Les deux acteurs seront alors signés au printemps 1986. Gibson et Glover débuteront alors un entraînement physique intensif de plus de 2 mois. Pendant ce temps, l'acteur Gary Busey obtiendra le rôle de Joshua après avoir demandé à Donner la chance d'auditionner pour le personnage, ce dernier n'ayant jamais eu à auditionner pour un film depuis sa nomination comme meilleur acteur pour sa prestation de Buddy Holly dans le film de 1978 The Buddy Holly Story. Pour Busey, Lethal Weapon sera un film important dans sa carrière puisque ce film servira de tremplin à l'acteur pour faire revivre cette dernière qui était en déclin depuis quelque temps maintenant. Pour la séquence d'introduction, l'actrice Jackie Swanson sera embauchée pour interpréter le personnage de Amanda Hunsaker. Ce sera également cette dernière qui performera sa propre cascade lors de la scène du suicide sous la supervision du cascadeur Dar Robinson. En effet, la jeune femme de 24 ans se laissera tomber dans le vide, tombant dans un gigantesque coussin d'air, et Donner tournera la scène de telle façon que le monteur put garder la séquence de la chute jusqu'à la dernière seconde, donnant ainsi un aspect réaliste à la scène. Pendant ce temps, Gibson et Glover allaient accompagner des policiers du LAPD dans leur travail afin d'acquérir une expérience qui donnera toute la crédibilité nécessaire à leurs prestations. De plus, Gibson et Busey, quant à eux, travailleront avec les instructeurs Cedric Adams, Dennis Newsome, Bobby Bass et Rorion Gracie, qui leur apprendront alors quatre types d'arts martiaux qui n'avaient encore jamais été vus sur le grand écran, soit le taekwondo, le capoeira, le judo brésilien jiu-jitsu et le jailhouse rock, un art martial créé en prison pour se battre dans des endroits très restreints. Les deux hommes s'entraîneront alors 4 heures par jour et ce pendant plus de 6 semaines. Le tournage débutera en Californie le 6 août 1986 et sera complété en novembre de cette même année. Lors de sa sortie en salle aux États-Unis, quelques mois plus tard, Lethal Weapon sera distribué dans plus de 1420 salles et prendra la première place du box-office pendant plus de 3 semaines consécutives, amassant plus de 65 millions sur le continent nord-américain, tandis qu'à l'international, le film rapportera 55 millions de dollars supplémentaires, ce qui en fera un succès commercial vu son faible coût de production de 15 millions de dollars. Ce sera le compositeur américain Michael Kamen, qui venait de terminer son travail sur la trame sonore du film Highlander, qui sera embauché pour réaliser la trame sonore du film, et ce dernier fera équipe avec le guitariste Eric Clapton pour la réalisation de la musique du long métrage. Kamen et Clapton avaient déjà travaillé ensemble sur la série télé Edge of Darkness, diffusée sur la BBC en 1985. Ce sera le groupe Honeymoon Suite qui performera la chanson « Lethal Weapon », mais ceux-ci ne seront pas crédités dans le générique. Le film sera nominé aux Oscars pour le meilleur son, mais perdra aux mains du drame « The Last Emperor ». « Lethal Weapon » est considéré par plusieurs comme l'un des meilleurs « body cop » de tous les temps, ayant influencé nombre de films du même genre, tels que « Hot Fuzz »,« Tango and Cash »,« Bad Boys » et la franchise « Rush Hour ».« Lethal Weapon » est dédié au cascadeur Dart Robinson, mort peu après le tournage. Robinson, qui avait travaillé sur des productions telles que Stick, Papillon, To Live and Die in L.A. et Nighthawk, allait décéder le 21 novembre 1986 sur le plateau de tournage du film Million Dollar Mystery, alors qu'il perdra le contrôle de la moto qu'il pilotait et qu'il tombera d'une falaise après avoir manqué un tournant pris à trop haute vitesse. Robinson était reconnu comme l'un des meilleurs cascadeurs de l'industrie du cinéma, ce dernier n'ayant jamais eu d'accident grave en 13 ans de carrière à Hollywood. Il existe une version longue du réalisateur de « Lethal Weapon ». En effet, le film original dure 110 minutes, mais une version « extended » d'une durée de 117 minutes sera alors distribuée en DVD et comprendra quelques scènes additionnelles. Du côté des points forts, ce qui fait la force principale de Lethal Weapon, c'est la chimie incroyable des acteurs Mel Gibson et Danny Glover qui nous donnent ici une prestation presque parfaite de leurs personnages respectifs. De plus, le reste de la distribution se surpasse ici pour nous donner une rareté dans ce genre de film, soit un film d'action rempli d'émotions humaines réalistes. Ce que j'aime ici en plus, c'est le fait que Mel Gibson n'ait pas peur d'être débraillé, sale et qu'il passe son temps à fumer et à boire. L'acteur disparaît derrière le rôle qu'il anime et on croit au personnage de Riggs, à sa dangereuse folie suicidaire qui font de lui un loose cannon des plus dangereux. Certaines cascades sont tout à fait spectaculaires, tout comme le combat final entre Riggs et Joshua qui demeure un combat simple mais efficace sur l'écran. Bien qu'ayant des moments extravagants et exagérés, la mise en scène de Donner demeure terre-à-terre et vraiment héroïque. Du côté de l'acteur Cary Busey, ce dernier est vraiment surprenant dans le rôle de Joshua, un type de personnage qu'on n'est pas vraiment habitué de le voir interpréter. Une réalisation dynamique, un montage serré, des moments forts et un humour des plus croquants, voici la recette parfaite qui fait de Lethal Weapon un excellent divertissement. Cependant, il y a bien sûr des points faibles. Principalement, je vous dirais que bien que la première partie passe assez bien et qu'elle est pratiquement parfaite, le film va perdre de sa qualité à partir de la seconde partie de l'histoire parce que les scènes vont se suivre, mais on a vraiment l'impression qu'il manque des bouts d'histoire ou encore qu'on fait des jumps temporels par moment, même si on dirait qu'on a comme trop coupé au niveau du montage. Ce qui fait qu'au niveau du visuel, ça pourrait faire en sorte que l'auditeur débarque du film une fraction de seconde. D'ailleurs, l'histoire jusque-là bien ficelée tombe alors dans l'illogisme et l'invraisemblance, mais l'action a assez de vigueur et d'énergie pour faire oublier ses manques au moment du déroulement. Vers la fin du long-métrage, Donner a tendance à favoriser les effets à l'emporte-pièce au point de conférer à l'un de nos héros des qualités presque surhumaines, ce qui cause beaucoup avec ce que l'on voit dans le premier volet du film. Finalement, bien que le film ait été réalisé un an avant Die Hard, la musique de Kamen nous rappelle ce film continuellement, certains bouts musicaux étant note pour note une reprise de la trame sonore qu'il utilisera pour cet autre film à succès, ce qui pourrait déranger quelque peu l'attention du spectateur. Au niveau de la trame sonore du film, comme je disais plus tôt, c'est Michael Kamen, ce compositeur américain qui nous a donné les trames sonores des films Highlander, License to Kill, Life Force et Robin Hood, Prince of Thieves, qui s'occupe ici de la musique. Je vous fais écouter ici la chanson thème qui a été réalisée par le groupe Honeymoon Suite, Lethal Weapon.
When you lose your love, and it makes your life turn cold, when it tears you apart, your heart and soul just can't go on. When love's alive, it sets you free. When it's gone, how even love can become a lethal weapon. When you lose control and you scare yourself sometimes, when you really don't care, yeah, a leap.
intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
What is it?
Say,
what is it?
Hey, why, it's Buttercup. Popcorn and sweet cream butter to hot popcorn. Mix it up, wrap it up, Buttercup is born.
It's delicious.
So nutritious.
It's a taste delight.
It's so munchy.
Crisp and crunchy.
You'll enjoy each bite. Eat butter drenched Buttercup. Popcorn at its best.
Served in a king-size cup.
It beats all the rest.
Here's a new taste treat. The corn dog. Plump, juicy wieners are dipped in a thick, golden southern-style corn batter that seals in all their freshness and flavor. If you like hot dogs, you'll love corn dogs. Everybody does. Try a corn dog with your favorite beverage. At the refreshment corner now. Corn dogs. See your next movie completely free.
And now, on with the show.
Alerte code jaune.
Le système d'atterrissage ne répond plus.
Pas de réponse non plus du système auxiliaire.
Tous les systèmes sont morts.
Nous sommes coincés.
Attention à tous les contrôleurs, nous avons une alerte code rouge. Nous avons 2 heures devant nous. Après ça, les avions cesseront de tourner en rond dans le ciel. Et c'est la pelouse de la Maison Blanche qui les recevra.
Je veux voir tous les officiers armés de pied en cap rassemblés dans le parc à voiture dans 5 minutes.
Et ça va chier.
Tous nos tireurs d'élite sont morts.
Peut-être qu'ils sont légèrement plus inventifs que vous ne croyez.
Ils attendent qu'il y ait un miracle.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Nous refusons de prendre un risque avec ce dingue.
Vous allez dégager immédiatement de mon bureau ou je vous fais virer de mon aéroport.
Vous avez fait erreur sur la personne, sur l'heure et sur la cible.
C'est l'histoire de ma vie.
On dit que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit.
C'est comme ça que j'ai passé mon dernier Noël.
On a tort.
McLean, c'est ce que vous espériez?
Et ça ne fait que commencer.
Bruce Willis, 58 minutes pour vivre.
Die Hard 2, Die Harder, ou encore 58 minutes pour vivre, est un drame policier qui a été produit par la 20th Century Fox et qui a été distribué en salle le 4 juillet 1990. Ce film américain d'une durée de 124 minutes aura coûté plus de 70 millions à produire, mais ramassera plus de 240,2 millions à travers le monde entier. C'est le réalisateur finlandais Reni Harlin qui s'occupe ici de la mise en scène, lui qui nous a donné les films Cliffhanger, 12 Rounds et Cutthroat Island. Au niveau de la production, on y retrouve les producteurs Lawrence Gordon, ce producteur américain qui nous avait donné le premier Die Hard, The Warriors, K-9 et Event Horizon. Il a à ses côtés Joel Silver, ce producteur américain qui avait également travaillé sur le premier Die Hard, mais qui a également travaillé sur Swordfish, Demolition Man et Assassins. Et finalement, Charles Gordon, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Waterworld, October Sky et Night of the Creeps. Au niveau de la scénarisation, c'est le scénariste américain Doug Richardson qui lui avait écrit les scénarios de Money Train, Bad Boys et Hostage qui a travaillé sur le film, assisté de Steven I. de Souza, ce scénariste américain qui avait travaillé sur 48 Hours, Commando et Beverly Hills Cop 3. Au niveau de la distribution, on y retrouve bien sûr l'acteur Bruce Willis, l'actrice Bonnie Bedelia, William Atherton, Reginald Vell Johnson, Franco Nero, William Sadler, John Amos, Dennis Franz et Fred Thompson. Un policier de Los Angeles se trouve à l'aéroport de Washington où il attend l'arrivée de l'avion qui ramène sa femme de Californie. Sur place, il doit faire face à une menace terroriste menée par un officier détraqué qui déclenche une opération de commando afin d'arracher aux autorités un dictateur d'Amérique centrale extradé aux États-Unis. En 1979, l'écrivain Roderick Thorpe écrira une nouvelle intitulée « Nothing Lasts Forever », qui sera à la base du scénario du drame policier Die Hard, qui fut un succès surprise lors de sa sortie en salle en 1988. Bien que le président de la production à l'époque à 20th Century Fox, Leonard Goldberg, n'était pas très ouvert à une suite à Die Hard, cela n'empêchera pas le producteur Lawrence Gordon d'approcher alors le scénariste Doug Richardson en secret 3 semaines après la sortie du premier film au cinéma en 1988. Richardson était alors un écrivain qui n'avait encore jamais travaillé sur un scénario de film à Hollywood et ce dernier se mettra alors à travailler sur le premier jet de ce qui deviendra Die Hard 2, Die Harder. Tout comme le premier volet de cette franchise, le nouveau scénario sera également une adaptation libre d'un roman qui lui était intitulé 58 Minutes et qui fut écrit par l'auteur Walter Wager et publié en 1987. Ce roman n'avait initialement rien à voir avec Nothing Lasts Forever ou encore avec le premier Die Hard et sera retravaillé afin d'y inclure le personnage de John McClane en changeant tout simplement le nom du personnage principal du roman, soit Frank Malone, qui attendait alors dans un aéroport sa fille qui revenait alors de la Californie. Travaillant sans aucune pression, car personne à la Fox n'était au courant du projet de suite, Richardson prendra le temps nécessaire pour étudier le fonctionnement d'un aéroport et se renseignera sur les différents plans de sécurité reliés à un acte terroriste. Il remettra alors son jet final à Gordon, qui fut très impressionné par la qualité du rendu. C'est alors qu'au même moment, Joe Roth prendra la place du président de la production Leonard Goldberg à la Fox et demandera alors qu'une suite à Die Hard soit mise en chantier. Lorsque l'annonce du projet fut officielle, le producteur Joel Silver arrivera alors sur le projet et embauchera le scénariste Stephen De Souza pour réécrire le scénario de Richardson. De Souza s'inspirera de plusieurs personnalités d'Amérique centrale, spécialement pour le personnage du général qui sera basé sur Manuel Noriega, un militaire ainsi qu'un politicien qui dirigera le Panama entre 1983 et 1989. De plus, De Souza s'inspirera également de l'affaire Iran-Contra, un scandale politico-militaire survenu aux États-Unis dans les années 1980 pendant le second mandat de l'administration Reagan, où plusieurs hauts responsables du gouvernement fédéral américain avaient alors soutenu un trafic d'armes vers l'Iran entre août 1985 et mars 1987, et ce malgré l'embargo touchant ce pays. Du côté de la réalisation, eh bien, le metteur en scène du premier film, John McTiernan, devait initialement réaliser ce deuxième volet, mais dut se retirer du projet à cause de ses engagements sur The Hunt for Red October, qui sortira également en 1990. C'est alors que les producteurs américains Lawrence Gordon, Joel Silver et Charles Gordon se tourneront vers le réalisateur d'origine finlandaise Reni Harlin, qui avait impressionné certains hauts dirigeants de la Fox sur son travail sur The Adventures of Ford Fairlane, qui n'était pas encore sorti en salle à l'époque. Le budget initial du long-métrage sera alors de 40 millions de dollars. Au niveau de la distribution, Bruce Willis recevra un cachet de 7,5 millions pour reprendre le rôle de John McClane, alors que pour le personnage du général Esperanza, Joel Silver eut l'idée d'embaucher l'acteur italien Franco Nero pour le rôle après avoir vu le poster d'un film de ce dernier dans le bureau de son comptable. Silver réussira à convaincre l'acteur qui ne désirait pas à l'origine travailler sur Die Hard 2 parce qu'il n'aimait pas le scénario et surtout parce que l'acteur avait déjà signé un autre contrat pour jouer dans un film qui s'intitulait « Breath of Life ». Finalement, Silver organisera l'horaire de tournage pour permettre à Nero de jouer dans les deux productions et ce en même temps. pour l'acteur Fred Thompson, ce dernier trouvait excessif la quantité de profanité utilisée dans le scénario et demandera au scénariste de Souza d'y remédier, ce que ce dernier fera sur le champ. Du côté de l'acteur William Sadler, ce dernier s'entraînera pendant plusieurs mois afin d'apprendre le karaté ainsi que le tai chi. L'acteur apprendra alors à la dernière seconde que le metteur en scène Rennie Harlan avait l'intention de tourner la séquence d'introduction de son personnage, le colonel Stewart, alors que ce dernier réalise ses exercices d'arts martiaux, et ce, totalement nu. Cependant, dans le scénario, il était bien écrit que le personnage de Stewart était alors à demi dévêtu, ce qui forcera l'acteur à demander à Harlan de reporter à la fin du tournage cette séquence afin de lui permettre de se mettre en shape physiquement. De plus, la scène de combat entre Willis et Sadler sur l'aile de l'avion prendra plus de 8 nuits à réaliser. Le tournage se déroulera du 28 novembre 1989 au 6 avril 1990. Celui-ci aura lieu notamment dans le terminal international Tom Bradley de l'aéroport international de Los Angeles, alors que certains plans d'aéroport, intérieurs et extérieurs, seront réalisés dans l'ancien aéroport international Stapleton de Denver dans le Colorado. D'autres villes du Colorado seront également utilisées avant que la production ne se déplace dans le Michigan et en Californie. Lors du tournage dans l'État du Colorado, l'équipe fut confrontée à un cruel manque de neige, ce qui forcera la production à dépasser ses délais de tournage et son budget de production. En effet, le réalisateur désirait de la véritable neige et cela forcera l'équipe de tournage à se déplacer à plus de 4 reprises afin d'arriver à leur fin. Malheureusement, à chaque fois que l'équipe arrivait sur le nouvel emplacement de tournage, des températures anormalement chaudes feront alors fondre la neige, forçant ainsi la production à utiliser de la neige artificielle pour réaliser toutes les séquences nécessaires. De plus, une énorme quantité de neige artificielle sera également utilisée pour la scène de poursuite en motoneige, qui sera alors réalisée en partie en studio. Quant aux scènes qui se situaient à l'intérieur de l'avion, ces dernières seront tournées dans les studios de production de la Universal. Durant le tournage du premier film, Bruce Willis allait improviser certaines lignes de texte qui furent bien reçues par le public. Pour ce second volet, les producteurs donnèrent carte blanche à Willis si ce dernier désirait improviser des répliques, spécialement si celles-ci contenaient des notes humoristiques. Die Hard sera reconnu pour 2 premières. Tout d'abord, la compagnie Black & Decker paiera un fort montant d'argent pour voir l'acteur Bruce Willis utiliser une perceuse sans fil de leur compagnie. Mais, lorsque la scène fut coupée au montage, la compagnie poursuivra alors 20th Century Fox pour bris de contrat. Il s'agira ici de la toute première fois dans l'histoire d'Hollywood qu'une compagnie ayant payé pour le placement d'un produit sur le grand écran poursuivra un major pour ne pas avoir respecté son entente. La cause de 150 000 $ sera finalement réglée hors cour. De plus, ce second volet des aventures de John McClane sera également le premier film à Hollywood à digitalement inclure une image matte painting avec une image tournée avec de vrais acteurs. Il s'agit en effet de la séquence finale du générique où la caméra fait un zoom out et que l'on voit l'extérieur de l'aéroport avec les avions sur la piste d'atterrissage à travers duquel se trouvent nos héros. Si la séquence avait été tournée en vrai, celle-ci aurait pu coûter jusqu'à plus de 250 000 $ par jour, alors que le montant total pour la réalisation du matte painting et de son incorporation digitale en aura coûté moins de 5 000 $ au final. Durant la production, le producteur Joel Silver sera accusé d'avoir eu des dépenses excessives qui auraient alors fait monter le budget de la production dans les alentours de 70 millions de $, le tout incluant également le fait que le tournage dépassera ses délais de production. Bien que le président de la distribution de la Fox, Tom Sherrack, prétendra que cette affirmation est totalement fausse, il est à noter que Silver se verra retiré du contrôle des finances reliées à la production, et ce, avant la fin de cette dernière. Ce sera d'ailleurs la dernière fois que Silver travaillera sur un film de la franchise Die Hard. Quant à Michael Kamen, le compositeur musical du premier Die Hard, celui-ci reprendra quelques thèmes du premier opus, notamment dans les séquences d'action. Le générique de fin mettra de nouveau en vedette la chanson de Noël « Let it snow, let it snow, let it snow », interprété de nouveau par le chanteur Vaughn Monroe. Étant initialement annoncé pour sortir en salle le 29 juin 1990, avant d'être devancé par la suite au 22, le retard au niveau du tournage forcera la Fox à retarder la sortie du film pour le week-end du 4 juillet de cette même année. Le film aura un succès encore plus monstrueux que le chapitre précédent, doublant presque au final le box-office de ce dernier. Du côté des points forts, Die Hard 2 est un film dont le scénario dynamique, bien que peu vraisemblable, se révèle aussi palpitant que son modèle, tout en copiant presque à la lettre ce dernier. Une fois engagé, l'intrigue court sans même ralentir d'une scène d'action à une autre et revient rapidement sur le premier opus à travers quelques lignes qui permettent aux spectateurs de se replacer en contexte et ainsi embarquer dans cette nouvelle symphonie bruyante ponctuée de coups de feu et d'explosions. Le réalisateur instaure ici une mise en scène éblouissante, le tout enrobé d'un montage serré, d'une direction artistique calculée et d'un rythme sans faille. Bruce Willis, quant à lui, démontre une nouvelle fois ses qualités d'énergie et d'endurance au milieu d'une solide distribution qui, par moments cependant, nous donne quelque peu une sensation d'un long métrage de série B. Mais du côté des points faibles, le film est une véritable copie conforme de son prédécesseur, ce qui enlève toute possibilité aux spectateurs de voir de la nouveauté ou encore de ne pas prédire les tentatives qu'a le scénario de nous surprendre. Du côté des effets spéciaux, il est difficile de comprendre qu'avec un tel budget, certains effets sont faits d'une manière tirant presque à l'amateurisme, autant que d'autres sont tout à fait impressionnants. Du côté de la violence, Die Hard 2 est nettement supérieur au premier, ce qui nuit beaucoup au spectacle, puisque cette dernière est dans plusieurs cas non seulement très gratuite, mais également très graphique. L'aspect humain de John McClane ici a totalement disparu, faisant place à un personnage style Rambo ou encore Terminator, qui se retrouve donc sans faille malgré les multiples situations impossibles dans lesquelles il se retrouve. De plus, on touche quelque peu à sa difficulté à s'adapter avec les nouvelles technologies, mais sans plus, ce qui aurait pu être beaucoup plus utilisé, apportant aussi des moments qui auraient pu être beaucoup plus amusants et relaxants au niveau du long métrage. Au niveau de l'aspect claustrophobique qui apportait une notion de danger et d'étouffement dans le premier film, bien, cet aspect-là a totalement disparu ici, McClane ayant un terrain de jeu extrêmement vaste, ce qui enlève encore une fois la possibilité au personnage d'être confronté à lui-même et de se remettre en question par moments. Finalement, on assiste ici à un dénouement véritablement facile dans lequel on règle la menace d'une façon expéditive et sans grand réalisme. Au niveau de la musique, comme je disais tantôt, c'est encore le compositeur Michael Kamen, lui qui a composé les musiques de films comme Brazil, Suspect ou encore Roadhouse ou même Lethal Weapon, dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Je vous fais écouter ici la chanson de Noël de Vaughn Monroe, soit Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, let it snow. Let it snow.
côté des cotes artistiques, du côté de Mediafilm, le film est coté 4. Je lui donne une même cote, spécifiquement à cause de la deuxième partie du film qui est beaucoup moins intéressante. Du côté de Die Hard 2, Die Harder, le film est coté 4 du côté de Mediafilm. Moi, j'ai une tendance entre le 4 et le 5. Je lui donne 4 parce qu'au niveau du visuel, le film est quand même bien réalisé. On a quand même un film avec un bon rythme bien soutenu. Cependant, je trouve que l'idée de faire une copie conforme du premier film enlève un petit peu à l'histoire. Et au niveau des comédiens, bien le choix de la distribution nous donne un petit peu un arrière-goût de film de série B. Donc, c'est pour ça que j'ai une tendance à aller un petit peu sur le 5 aussi. Mais bon, je lui donne quand même un 4 officiellement, mais je balance entre les deux. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, Lethal Weapon était coté 18 ans à l'époque. Aujourd'hui, la régie du cinéma a revisé l'âge à 13 ans éducatif. J'y vais également avec un 14 ans pour violence et langage vulgaire. Même chose du côté de Die Hard 2. Le film est coté 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote de 14 ans pour des scènes de violence quelque peu graphiques ainsi qu'un langage vulgaire. Au niveau de la distribution des trames sonores, du côté de Lethal Weapon, vous avez un vinyle qui est sorti sur l'étiquette Warner Brothers Record en 1987 et vous avez un CD qui est également sorti dans cette même période, ce qu'on appelle le Limited Edition. Vous avez en 1999 un autre CD qui a été sorti où à ce moment-là, on avait ce qu'on appelle le Promotional Booklet Soundtrack. Il y avait trois trames sonores sur cet album-là, soit Lethal Weapon, Mona Lisa et The Next Man. Et finalement, vous avez le Lethal Weapon Soundtrack Collection qui a été limité à 3000 exemplaires. C'est un coffret qui inclut les trames sonores de tous les films de la saga qui est sorti sous l'étiquette La La Land Records le 5 décembre 2013. Au niveau de la sortie DVD, eh bien, vous avez bien sûr le film Lethal Weapon. Moi, personnellement, je vous suggère le coffret de 4. Vous avez les 4 films en version française et en version anglaise. Ça s'appelle bien sûr le Lethal Weapon 4 Film Favorites. Vous avez exactement la même chose en DVD, soit le Lethal Weapon Collection qui inclut bien sûr les 4 films et qui est également en version française et en version anglaise. Du côté de Die Hard 2, Die Harder, eh bien, au niveau de la trame sonore, nous avons bien sûr le 31 août 1993, le CD de la trame sonore qui est sorti sous l'étiquette Varese Sarabande. Et il y a également le Deluxe Edition qui a été distribué par Varese Sarabande à 3000 exemplaires, ce double CD qui est sorti le 5 novembre 2012. Au niveau du DVD et du Blu-ray disc, le film est compris dans plusieurs versions différentes, toujours dans les deux langues, que ce soit un deux disques Collector Edition avec plein de documentaires ou encore que ce soit le coffret des 5 films de la saga de Die Hard, ce qu'on appelle le Die Hard 25th Anniversary Collection qui inclut bien sûr tous les films de la série, que ce soit en Blu-ray et en DVD, vous avez tous les 5 films de la saga en version française et anglaise. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.